pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il ne faut pas confondre les musulmans en général avec les intégristes islamistes, tout comme on s'abstient de considérer pareillement les catholiques et les chrétiens intégristes. Il existe en revanche un débat moins connu entre les spécialistes de l'intégrisme islamiste qui porte sur le salafisme. Le salafisme, c'est un des plus anciens mouvements réformistes de l'islam. Les membres de cette communauté veulent vivre comme les salafs, c'est-à-dire comme la première génération des musulmans du 1er siècle de l'islam, c'est-à-dire le 7e siècle après Jésus-Christ. Parmi eux, on trouve une forme dite quiétiste, qui refuse toute implication dans la vie politique et condamne l'action violente. Les quiétistes appliquent seulement, si on peut dire, un islam très très strict, passéiste, intégriste. C'est à ce groupe-là qu'appartiennent ou ont appartenu les deux personnages que nous entendrons aujourd'hui. Une autre forme de salafisme est dite activiste ou djihadiste. Ce sont ces djihadistes qu'on retrouve aux commandes de l'État islamique, ce sont eux qui se radicalisent très rapidement et participent à des actions violentes. La querelle porte sur la relation entre les deux groupes. Faut-il penser comme Bernard Cazeneuve qu'il n'y a, je cite, « jamais de fondamentalisme pacifique, il n'y a pas de salafisme anodin, dit le ministre, il n'y a pas d'intégrisme modéré ». Faut-il considérer que la frontière entre les deux formes de salafisme, donc, est très poreuse, très floue? Ce sera le point de vue de Gilles Kepel, par exemple, ou de Jean-Pierre Perrin. Bon connaisseur de terrain, le journaliste David Thompson raconte une réalité différente et explique que dans leur discours, en tout cas, salafistes et djihadistes sont des frères ennemis. Même s'il concède que la majorité des djihadistes sont passés par une phase quiétiste, Thompson explique que sur les réseaux sociaux particulièrement, qui sont un terrain aussi salafiste et djihadiste, se haïssent et rivalisent d'injures les uns contre les autres, et que les quiétistes vont parfois jusqu'à dénoncer les djihadistes à la police. Ce débat étant posé et non résolu, ce sont donc aujourd'hui deux histoires liées au salafisme, probablement quiétistes. La première est celle d'Hicham Abdel Gawad, qui est né et qui a été élevé en banlieue parisienne il y a une trentaine d'années et qui est devenu enseignant en Belgique. La seconde est celle d'Enda Ayari, une jeune femme qui a fait un esclandre sur la toile en publiant côte à côte deux photos d'elle, une avec un long djilbab noir et l'autre avec un tailleur élégant, tête nue. Ce sont deux récits de Stéphanie Thomas et Leïla Djitli jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Hicham Abdel Gawad, j'ai 33 ans, je suis français résident à Bruxelles et je suis professeur de religion islamique. Je dirais que tout a commencé le jour où je vais pousser la porte d'une librairie présentée comme librairie islamique, pas loin de Versailles. Donc je rentre dans cette librairie. Et là, je vois énormément de bouquins qui sont présentés comme des bouquins d'islam, rédigés par des savants musulmans, comme on dit, des oulémas, comme on dit. Donc, j'achète plusieurs de ces bouquins, qui étaient de bonne qualité matérielle. Hein, c'était du beau papier, de l'encre, de la couleur, et à un prix qui défiait toute concurrence, comme on dit. Hein. Des bouquins à 3-4 euros, des choses comme ça. Et donc, je rentre avec ces bouquins et je les lis un par un. Je lis aussi des bouquins de ce qu'on appelle des hadiths. Un hadith, c'est une parole attribuée à Mohammed, mais qui ne se trouve pas dans le Coran. Donc, et d'ailleurs, d'un point de vue historique, c'est une littérature qui est tardive par rapport au Coran. Elle apparaît à peu près au 9e siècle, donc 2 siècles après la mort de Mohammed. Et je trouve des choses qui sont assez interpellantes quand on a 18-19 ans. Si on sort avec une fille, c'est comme si on s'enfonçait un clou dans la tête, par exemple. On trouve des instructions sur comment rentrer dans les toilettes. Hein, pied gauche avant, pied droit après. Comment enfiler ses chaussons. Comment enfiler un manteau. Comment manger avec les 3 doigts de la main droite. Et comment boire aussi. On boit pas debout, on boit systématiquement assis. Donc, quand est-ce qu'il faut se couper les ongles? Donc vraiment, ça va vraiment très très loin. Et la façon dont c'est présenté de façon telle qu'en fait on a l'impression que Dieu nous observe dans nos moindres faits et gestes. et que ses moindres faits et gestes vont être pesés au jour du jugement. À partir de ce moment-là, je vais changer radicalement, sans mauvais jeu de mots. Je vais me laisser pousser la barbe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith qui dit qu'on n'a pas le droit de se tailler la barbe. Je vais commencer à porter mon pantalon au-dessus de mes chevilles. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a un hadith qui parle des habits qui traînent par terre et qui sont voués à l'enfer. Donc pour être sûr, on me laisse tout au-dessus des chevilles. Et je commence à enquiquiner ma maman par rapport à la nourriture halal. J'en étais à chercher dans les ingrédients s'il n'y a pas des additifs de type E471, E469, machin chouette, etc. Et donc si je voyais dans une bête tarte aux poireaux, par exemple, surgelée, si je voyais E471, je disais « Ah ben non, je mange pas ». Et donc du coup, je bouleverse un peu les habitudes chez moi. Et donc je suis rentré dans une phase de pratique, je dirais, assez extrême, finalement. Mes parents prennent ça plutôt bien, au départ en tout cas, parce que mon père se dit, finalement, s'il se met à pratiquer, tant mieux. Mais ça va vite devenir assez envahissant. Et le fait que je porte la barbe, etc., ça débranche pas trop mon père. Par contre, ce qui pouvait le déranger, et avec le recul, je lui donne totalement raison, c'est les discours que je pouvais tenir. Par exemple, un musulman qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Voilà. Donc, c'est-à-dire, implicitement, je suis en train de lui dire « t'es pas musulman ». Quoi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, dans ces bouquins présentés comme des bouquins islamiques et qui sont en fait des bouquins salafistes, dans ces bouquins-là, on trouve ce discours. C'est-à-dire que j'étais en train de répliquer un discours qui n'était pas le mien. Et c'est ça qui a gêné mon père, plus que la pratique en elle-même. C'est le fait que je répliquais des choses qui n'étaient pas moi. J'étais étudiant à ce moment-là. Je m'étais lancé dans des études d'électronique, que j'ai validées d'ailleurs. J'ai obtenu mon diplôme. À l'époque, c'était un diplôme universitaire de technologie, DUT. Donc un bac plus 2, mais je me rends vite compte que le travail en entreprise d'une part et le travail dans la technologie d'autre part n'était pas fait pour moi, donc c'était une carrière qui était doublement pas faite pour moi, mais surtout j'étais devenu obsédé par des questions religieuses, parce que pour moi la question religieuse c'est devenu une question de vie après la mort. Et donc, ce qui se jouait pour moi derrière ces questions-là, c'était littéralement une éternité au paradis ou une éternité en enfer. Dit autrement, faire des calculs de filtres électroniques, etc., pour moi, c'était devenu dérisoire à côté de la question religieuse. Et donc, j'abandonne tout et j'essaye de me tourner vers des études de religion. Et donc là, je m'inscris dans un institut, encore une fois présenté comme islamique et qui était salafiste. Et donc je m'inscris pour une somme de 400 euros à peu près l'année. Et donc là-dedans, on reçoit des cours sur l'histoire de... Enfin, pas vraiment sur l'histoire de l'islam, sur ce que la tradition dit de l'histoire de l'islam. Des cours sur la jurisprudence islamique, donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Des textes biographiques sur la figure du prophète, la figure des compagnons qui ont vécu avec lui, etc. Mais toujours dans une optique extrêmement traditionnelle. À ce moment-là, je n'étais pas heureux du tout, mais pour moi, c'était normal en fait. Puisque ce monde n'est qu'une épreuve pour savoir si on mérite d'aller au paradis, c'est normal de ne pas être heureux. Il y avait même cette fameuse phrase qu'on nous répétait dans certains cercles, y compris dans certaines mosquées. Ce monde est le paradis du non-croyant et la prison du croyant. Et dans la vie après la mort, ça sera le contraire, quoi, en gros. Donc j'étais malheureux, mais c'est normal. Ça indique justement qu'on est sur le bon chemin. Automatiquement, quand on est dans cette tendance-là, on est forcé de tomber dans le littéralisme. Et quand je lisais, par exemple, un texte coranique à caractère miraculeux, il ne me venait pas à l'esprit qu'il pouvait s'agir d'une parabole ou d'un texte métaphorique. Pour moi, c'était des vérités factuelles. Donc par exemple, Moïse qui va ouvrir la mer en deux, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le Coran, c'est factuel. Moïse a vraiment ouvert la mer en deux, ils sont passés, et quand Pharaon et son armée ont essayé de passer, ils ont été noyés par Dieu. Je suis aussi rentré dans une croyance assez explicite dans des êtres qu'on appelle les djinns. Donc il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il s'agissait de croyances populaires de l'époque de Muhammad en Arabie au 7e siècle. Non, pour moi, c'était des formes de vie peut-être immatérielles, mais parallèles à la nôtre. Et donc tout ça, ça vient, je dirais, polluer une rationalité qui tient du bon sens. Tout simplement, ben, on tombe malade, c'est un djinn. On n'arrive pas à passer ses examens, ben, c'est que quelqu'un nous a jeté un sort. Ça peut être des choses comme ça, donc vraiment des formes de rationalité ben, dignes du Moyen-Âge, en fait. Et tout ça, ça a un prix, parce que je vivais dans des formes d'angoisse assez permanentes. Parce que, effectivement, on se pose la question de savoir. Bon, je donne un exemple très concret. Une prière faite en retard, c'est 70 ans en enfer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, c'est 70 ans en enfer, c'est ce qu'on trouve dans les bouquins salafistes, mais le Coran ne va pas dire ça. Le Coran va appeler à être sérieux dans la façon de prier, à ne pas prier par ostentation, c'est-à-dire à ne pas prier pour se montrer devant les gens, mais à aucun moment c'est marqué qu'on va passer 70 ans en enfer parce qu'on a 15 minutes de retard dans sa prière. Alors, vers l'âge de 20-21 ans, forcément, toute cette façon de penser va m'amener à entrer en contact avec des personnes tout simplement qui pensent la même chose que moi. Je me suis mis à tout le temps lire les mêmes choses, les mêmes auteurs, fréquenter les mêmes mosquées, fréquenter les mêmes personnes qu'on commençait à appeler des frères d'ailleurs. Et donc, ce qui va casser, le cercle à un moment donné, ça va être ma rencontre avec des personnes qui précisément ne vont pas penser comme ça, mais vont avoir ce que j'appelle le crédit de l'apparence, c'est-à-dire que contrairement à mon père, bon voilà, qui a une apparence normale, eux vont être barbus comme moi, vont s'habiller comme moi, etc. Sauf que ils vont dire des choses intelligentes. Par choses intelligentes, je veux dire qu'ils vont dire exactement la même chose que ce que disait mon père, mais sauf que eux, comme ils ont la barbe et tout l'attirail, bah automatiquement j'étais plus enclin à les écouter, j'étais plus convaincu par leur discours. Et c'est à partir de ce moment-là que, je dirais, la machine à poser des questions critiques va se mettre en marche. Donc je ne vais plus me poser la question « est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou est-ce que j'ai le droit de faire cela ?» Je vais vraiment me poser la question « quand on me dit que j'ai le droit de faire ceci ou que je n'ai pas le droit de faire cela, est-ce que c'est vraiment fondé ?» Alors que dans la littérature salafiste, il y a des choses qu'on ne demande pas. Par exemple, est-ce que le Coran qu'on lit aujourd'hui est le même qu'à l'époque de Mohammed ? Pour les salafis, ça c'est une question qui est interdite. Et donc en fait, de fil en aiguille, je vais poser de plus en plus de questions, je vais remettre en question, et c'est ce qui va faire que, à l'âge de 21-22 ans, je vais prendre mes affaires et je vais aller m'installer à Bruxelles et j'essaye de rentrer dans une formation de niveau master qu'on appelle Sciences des religions, qui est en fait une étude des religions. Pas uniquement une d'ailleurs, un petit peu toutes les religions, mais du point de vue des sciences humaines, donc sociologie de la religion, psychologie de la religion, droit des religions, etc. Je suis toujours salafisé à ce moment-là, mais je dirais salafisé light, beaucoup plus light, mais j'étais toujours avec ma bonne vieille barbe, j'en étais toujours à considérer que le voile par exemple est obligatoire pour la femme, etc. Donc j'étais en voie de désalafisation, en quelque sorte. C'est vraiment l'université qui m'a fait sortir du salafisme de façon définitive et qui m'a fait rentrer dans un islam académique. Je compare souvent les phénomènes de radicalisation avec l'obésité. C'est pas parce qu'on prend du poids, qu'on est en surpoids, qu'on va forcément arriver à de l'obésité morbide. Mais c'est pas pour ça qu'il faut laisser traîner. Moi, je dirais que j'ai été en surpoids théologique, en surpoids religieux, mais pas en obésité morbide, pas en radicalisation violente.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis Enda Ayari. J'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants qui ont 17 ans, 14 ans et 11 ans. J'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai la culture française. Et lorsque j'ai eu la vingtaine, j'ai décidé de porter le voile. Et ensuite, j'ai adhéré à une doctrine qui vient d'Arabie Saoudite, qui s'appelle le salafisme. Ça s'est passé au moment où j'ai été mariée, puisque j'ai été mariée à un salafiste. Moi, je ne connaissais pas du tout cette doctrine, hein, ce courant, on va dire, de l'islam. Et j'en suis sortie, ça a été très long. J'en suis pas sortie après mon divorce. J'ai quitté le salafisme, on peut dire, au moment où j'ai retiré définitivement le voile en 2012, lorsque je suis rentrée au ministère de la Justice. Je me souviens de la première fois où j'ai porté mon premier voile, ce qui est différent du djellaba. Quelque part, c'est un de mes plus beaux souvenirs dans ma relation avec la religion, c'est-à-dire que je me regardais devant le miroir et puis je voyais mon visage très beau, lumineux. J'avais mis un voile beige avec une veste de tailleur et un pantalon beige et je devais me rendre à la fac ce jour-là. Et je me regardais comme ça pendant plusieurs minutes et je m'admirais. J'étais tellement fière et je me disais, ça y est, maintenant tu fais partie d'une communauté. J'appréciais beaucoup cette tenue parce que je trouvais qu'elle était moderne et à la fois elle révélait mon islamité, elle révélait ma foi, mon amour pour Dieu, parce que à ce moment-là j'avais aussi développé une jolie spiritualité qui m'apaisait. J'étais vraiment dans une sincérité dans ma relation à Dieu, donc c'était aussi voilà un moyen de m'exprimer, de me proclamer en tant que moi. Voilà, je suis cette jeune fille qui est étudiante et qui est aussi musulmane et qui est française. Par contre, le djellaba, c'est un peu plus flou. C'était un djellaba qu'une sœur m'avait offert et donc et elle me disait que c'était celui-là le vrai voile qu'une femme musulmane digne de ce nom doit porter et non pas le petit voile que moi je mettais avant. Je me souviens lorsque je me suis regardée dans le miroir, à ce moment-là, je voyais que du noir, donc autour de moi, et puis comme une protection. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus la forme de mon corps. C'était vraiment différent du moment où je portais le voile avec le tailleur. Mmh. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus cette relation au corps. Ça m'a rangé parce que j'étais très complexée, en plus, par mes défauts physiques, parce que je sortais de l'adolescence, je n'aimais pas forcément mes rondeurs, je me trouvais un peu trop grosse, un peu, vous savez, quand on est une jeune fille, on a toujours des petits complexes. Donc finalement, ça m'a rangé de cacher tout ça sous ce long voile. Et surtout, j'étais rassurée. Parce que je me disais, si je meurs... Alors, vous savez, dans le salafisme, on parle beaucoup de la mort. On cultive cette idée de la mort ambiante, qu'on peut mourir à n'importe quel moment, et que là, au moment où on va mourir, il faut qu'on soit en parfaite harmonie, en parfait accord avec les règles du salafisme. Donc je me disais, mais si je meurs dans cet état, j'irai sûrement au paradis, puisque mon ex-mari me disait, si tu es une femme mariée, si tu portes le voile, le long voile salafiste, et si ton époux est content de toi, satisfait de toi, si tu es assez soumise à ton époux, tu iras forcément au paradis. Donc c'était un sentiment d'apaisement et j'étais rassurée. Je me disais, les autres créatures ne comptent pas finalement. Ce qui compte, c'est Dieu et que Dieu soit satisfait de moi et que j'aille au paradis éternel, vous voyez ? Je croyais à ce moment-là que j'étais une musulmane supérieure aux autres parce que je portais un voile plus long. Je voyais bien que les hommes qui me croisaient ne me regardaient pas, baissaient le regard. C'était une grande fierté pour moi. Je me disais, ah voilà, ils baissent le regard, ils me respectent, ils ne me regardent plus comme un morceau de viande. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté, il faut le dire.
Vous étiez une musulmane supérieure au fond, une musulmane d'en haut.
Voilà, en fait, c'est ce qu'on nous fait croire, c'est-à-dire qu'on vous dit, si tu t'habilles comme ça, tu seras forcément mieux que les autres qui portent des petits voiles, ça prouve que tu as la foi, une foi qui est beaucoup plus forte que ces autres femmes avec leurs petits voiles ridicules. Ça veut dire que toi, tu ne fais pas de concessions à la société française. Ça veut dire que tu ne cherches pas à t'insérer dans la société française. Ça veut dire que tu assumes ta religiosité. Quelque part, c'était une conversion au salafisme et pas à l'islam. Moi, je me cherchais. J'avais besoin d'appartenir à une communauté à cette époque. En fait, je sortais d'une enfance difficile, d'une adolescence encore plus difficile, et je me cherchais. Je cherchais mon identité. Quand on a la vingtaine, on a toutes cru à un moment ou à un autre au prince charmant. On a toutes idéalisé la vie de famille, le gentil mari, la maison, la grande maison, les enfants. Donc, quelque part, moi aussi, je rêvais de ça. Je rêvais d'avoir un époux qui ressemble au prophète. Forcément, s'il ressemble physiquement au prophète et qu'il s'habille comme le prophète, il va bien se comporter avec moi, puisqu'il faut prendre exemple sur le prophète. Et le prophète était quelqu'un de bien, d'exemplaire. Donc, je me suis dit, c'est sûr, mon mari sera comme le prophète. Donc c'est très facile pour un homme de venir et puis de dire « voilà, tu seras ma princesse, la femme est comme une perle qu'on doit préserver dans son coquillage ». Donc toutes ces paroles, c'est une forme de manipulation mentale qui permet à ces hommes d'arriver à leur fin, c'est-à-dire d'épouser une femme et de la rendre soumise au nom de la religion. Il y a vraiment une forme d'hypocrisie dans les relations entre les hommes et les femmes qui est vraiment incroyable. Ça, je l'ai compris au moment où j'ai vu le comportement de mon ex-mari, mais d'autres salafistes. Il rejette la mixité, il ne regarde pas les femmes dans la rue, il ne serre pas la main aux femmes. Par contre, ils sont tout autant des hommes qui draguent, des hommes qui ont envie de coucher avec des femmes, qui ont envie de changer de partenaire, et tout ça sous couvert de halal, de mariage religieux. Alors des hommes qui vont faire la polygamie parce qu'ils ont envie de changer de partenaire, c'est très facile. On se marie les uns avec les autres très vite, comme on divorce très vite les uns avec les autres. On va se marier avec la femme d'un ami, on va la divorcer, on va avoir des enfants avec une femme, puis avec une autre, et puis on va les abandonner. Beaucoup de jeunes filles qui sortent à peine de l'adolescence se retrouvent dans le salafisme et mariées du jour au lendemain avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Et donc, ces hommes, en tout cas, moi j'ai vu beaucoup d'hommes qui se marient, qui divorcent très vite et qui finalement change de partenaire, et puis tout ça sous couvert de halal, ce que je peux appeler, moi, une forme d'hypocrisie, parce que finalement, on ment à Dieu, on ment aux autres, et tout ça, ce n'est qu'une vaste supercherie. Moi, j'ai décidé de pris la décision de quitter mon ex-mari, donc en 2006, parce qu'il était de plus en plus violent et que ma vie était menacée, et donc j'ai eu un déclic grâce à des personnes qui m'ont ouvert les yeux, c'est mon beau-père et un psychologue. Et donc, il a fallu que je me reconstruise, il a fallu que je trouve de l'argent pour nourrir mes enfants, puisque j'étais dans la précarité. Ça a été terrible, ça a été une souffrance, une dépression. Enfin, et la communauté salafiste ne m'a pas soutenue. Les femmes m'ont tourné le dos parce que j'étais devenue une concurrente qui pouvait être un danger parce que je pouvais leur piquer leur mari. Et puis les hommes me voyaient comme une proie puisqu'ils me proposaient de m'aider pour un déménagement, mais qu'en échange, il fallait que j'accepte un mariage religieux. Et qui dit mariage religieux dit rapport sexuel. Donc tout ça, c'est les rapports sexuels sous couvert de halal, de mariage religieux. Mais tout ça, j'ai compris avec le temps que c'était vraiment de l'hypocrisie, que pour moi, c'était une forme de prostitution, entre guillemets. Alors en fait, le jour où j'ai reçu un courrier du ministère de la Justice avec le drapeau bleu, blanc, rouge, avec mon nom, mon prénom, et on me dit « vous allez commencer une formation à l'École nationale des greffes pour être greffier ». Et là, j'ai crié de joie. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai retiré définitivement mon voile. C'est-à-dire que moi, quand je me suis présentée au ministère de la Justice, il a fallu, pour donner ma candidature, que je retire mon voile. Mais je le remettais après, vous savez. C'était je retire, je remets. Mais quelque part, quand j'ai reçu cette chance, qui était pour moi une chance, un poste de fonctionnaire, là, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, je ne mettrai plus le voile. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir une vie de femme indépendante. Mais ensuite, il a fallu du temps pour accepter, parce que ce n'est pas si simple. Il faut vraiment du temps quand on doit se reconstruire pour accepter sa féminité. Il a fallu que je poste des photos sur ma page personnelle Facebook pour me voir différemment. Donc ça m'a aidée aussi, ça a été une sorte de thérapie de poster mes photos sans voile. Tout ça, c'était une façon de me reconstruire, de me soigner, entre guillemets.
Quel est le plus joli souvenir que vous ayez après avoir enlevé votre voile ?
C'est le jour où j'ai fait du vélo avec mes enfants. J'ai acheté des vélos, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avec mes enfants. On avait chacun un vélo, et on a été faire une balade dans les bois. Et ce jour-là, j'avais un sentiment de liberté, de plénitude. J'avais les cheveux qui volaient au vent. Et là, je me sentais libre et heureuse. C'est rien, mais pour moi, c'était beaucoup. C'était une renaissance, comme une renaissance.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of this scene. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic shoes you carry, jumpers, coats, sweet Mary Jane. Sugar man, my false friend, on a lonely dusty road, lost my heart when I found it.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, sortir du salafisme, un reportage de Leila Djikli et Stéphanie Thomas, réalisé par Marie Placet, avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Hicham Abdel Gawad et à Enda Ayari. Des commentaires, des réactions, des partages, des tweets, des likes et des retweets. Direction les réseaux sociaux, nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui vous attendent avec impatience.